Bonjour auditrices et auditeurs. Nous sommes ravis de vous retrouver pour l'émission « Poète, vos papiers » sur Radio Saint-Ferréol. Si vous êtes déjà ouvert à la poésie, bienvenue. Et encore plus, si vous êtes à l'écoute pour la première fois, par curiosité peut-être. Surtout, ne fermez pas votre poste, ne zappez pas. La poésie n'est pas faite pour être lue, mais entendue. Dans cette émission, nous partirons à la découverte d'une poétesse, mais qui n'est pas que poétesse, loin de là. Dans la seconde partie, vous entendrez un choix d'extraits divers sur le thème de l'exil et de l'immigration en général. Vous pouvez écouter toute l'émission ou quelques morceaux et y revenir plus tard au gré de vos disponibilités et de votre fantaisie. L'émission est rediffusée le dimanche qui suit ce mardi, à la même heure.
Alors, la poétesse que nous vous faisons découvrir aujourd'hui, c'est Cécile Coulon. Et je vais vous lire des poèmes qui sont recueillis dans donc l'ouvrage « Les ronces ». Cécile Coulon est née en 1990 à Clermont-Ferrand. Et c'est une romancière qui a été primée plusieurs fois. Et le recueil que j'ai entre les mains, et son premier recueil de poésie a été primé également. La compositrice Jeanne Chéral a écrit la préface de ce recueil et en guise de biographie, je vous propose de vous lire cette préface qui parle assez joliment de Cécile Coulon. Fais-toi jouir une fois par jour au moins pour que ton corps se rappelle que tu en es capable. Cécile Coulon a le don d'inventer des mantras fulgurants. Ses poèmes limpides et charnels ressemblent à des courses de fond à travers les reliefs séculaires de son Auvergne chérie. En découvrant Les ronces, j'ai eu la sensation intime et exaltante de suivre Cécile dans son sillage, le long des sentiers, sans m'essouffler jamais. Cécile court, et tandis qu'elle court, ses foulées tracent les contours de son pays intérieur. Une terre libre, sauvage et ancestrale, qu'on sent bouillir d'un épais magma. Une terre volcanique. La poésie de Cécile Coulon est pure, immédiate et profonde. Sa voix est aussi bien celle d'une jeune femme d'à peine 30 ans, aux cheveux pleins de cette odeur d'une journée qui n'en finit pas, et à qui un inconnu solitaire offre des frites au comptoir, que celle d'une héroïne biblique qui aurait traversé les montagnes à pied et mis elle-même le feu aux buissons ardents. Elle est de tous les temps et de toutes les audaces. Au fil de ce recueil, je l'ai imaginée debout, en plein vent, criée face à un puits de dôme majestueusement silencieux. Ma force est d'avoir enfoncé mon poing sanglant dans la gorge du passé. Je l'ai imaginée qui marchait d'un pas rapide autour du gourd de Tazena, réglant son allure sur son flot, en se murmurant pour elle-même « Ma force a toujours faim, ma force a toujours froid. » Je l'ai imaginé encore qui méditait au cœur d'Ésaü, ce village de quelques poignées d'habitants dont on ne sait rien, chantant presque d'une voix grave et posée « Ma force, c'est d'avoir compris la beauté des montagnes. » Ce village l'inspire tant qu'elle le rappelle sans cesse à elle au sein de ses poèmes. Elle le décrit avec tellement d'intensité qu'on ne sait plus s'il est le fruit de ses souvenirs ou de ses rêves. Bientôt Ésaü, scande-t-elle comme un motif d'espoir. Un jour, pour voir, j'ai voulu composer une musique sur un des textes des ronces. Étrangement, la mélodie m'est venue tout de suite, et de façon si évidente qu'il m'a semblé qu'elle était contenue dans les mots et dans la respiration de Cécile. La chanson commençait comme ça, juste à l'endroit où tu poses ta main quand je suis dans la cuisine. En plaquant les accords au piano, je sentais bien que c'était moi qui étais dans la cuisine. À cet instant, j'étais branchée sur le même canal que Cécile. Sa poésie me touche car elle est au plus près d'elle-même et me ramène ainsi à ma propre pulsation. Elle me fascine car elle s'élève, prend de la hauteur et survole comme un aigle les passages grandioses des terres de Cécile. Elle me trouble car elle est claire, puis, sans prévenir, se couvre par endroits d'une buée délicate qui la rend opaque, mystérieuse, précieuse. Elle me captive car elle est en perpétuel mouvement. Les ronces est un livre qui griffe, marque et laisse dans la bouche un jus noir comme de la pierre de lave, sucré comme une fin d'été ou acide comme une vérité qu'il serait difficile mais nécessaire d'avaler. C'est un buisson indomptable autant que nourricier. Je ne me lasse pas de cueillir ses trésors. Voilà ce qu'en dit Jeanne Cherhal. Laissons maintenant place au texte de Cécile Coulon. J'aimerais vous offrir des frites. Ça a commencé à cette heure si particulière du soir, où la fin d'un jour bouscule le début d'un autre. Je suis sortie sous la pluie, j'avais faim. L'orage déversait sa grêle chaude sur les volets battants. Personne ne marchait dans les rues, qui suintaient jusque sur la place en contrebas, où la fontaine débordait. D'habitude, des chiens osseux se baignent dedans. Mais là, pas d'aboiement, pas de sifflet. La nuit, la pluie, la chaleur. J'ai traversé. Un type m'a fait signe de l'autre côté, les deux doigts sur la bouche entr'ouverte, pour me demander si j'avais quelque chose à fumer. J'ai lancé une main ouverte, battante, comme les volets, pour lui signifier que non. Et j'ai continué, le visage enfoncé dans un pull trop long, les cheveux pleins de cette odeur, d'une journée qui n'en finit pas. Devant l'enseigne, une jeune fille en jupe rose et un type, avec une coupe de cheveux qui rappelait les meilleurs moments d'Agnès Varda, attendaient leur tour pour commander un kebab avec supplément fromage. La fille regardait l'écran plat, fixé au mur, qui diffuse des clips de pop américaine. Le gars a attrapé une bouteille de soda derrière lui, en se retournant avec souplesse. Quand ils ont payé, le patron m'a lancé « Pardon pour l'attente », alors que je venais d'arriver, et ça m'a fait sourire. Une barquette de frites avec du ketchup, ça marche, vous pouvez attendre à l'intérieur. Alors j'ai attendu, debout, contre le réfrigérateur, devant les bacs de salade vides. C'est là qu'un homme, trempé jusqu'aux os, est arrivé. Je me suis poussée pour le laisser passer. Ses vêtements dégageaient un parfum de ciment et d'alcool bon marché. Ses cheveux ras, gris, retenaient l'eau comme la surface des champs à 4 heures du matin. Il a commandé. Au moment où j'allais payer mes frites, il m'a fixé, avec des yeux plus ronds que des becs de flamant rose. La bouche molle des hommes fatigués qui boivent un peu trop et qui assument. Il m'a regardé longtemps et a bégayé. Je ne sais pas quoi vous dire. Au début, j'ai cru qu'il se fichait de moi. Mais quand même, ses yeux, ses yeux. Comment ça? Il a inspiré un grand coup, comme si chaque mot lui arrachait la moitié d'un poumon. Je ne sais pas quoi vous dire, mademoiselle. Le type derrière le comptoir écoutait d'une oreille et remplissait les bacs de frites industrielles. Vous n'êtes pas obligé de me dire quoi que ce soit, j'ai répondu en secouant mon pull. Je ne sais pas quoi vous dire, parce que je sais qui vous êtes. La pluie faisait des sillons légèrement irisés, en tombant de son crâne sur l'arête du nez. Je ne savais pas quoi dire non plus. Minuit n'était pas loin, je venais chercher de quoi tenir jusqu'au matin. Et ce type, parfaitement ivre et sain d'esprit, semblait sur le point de s'effondrer. Je sais qui vous êtes, vous écrivez des livres. Comment vous faites ? Comme je peux. Il s'est donné une tape sur les genoux, et puis, d'un seul coup, des larmes, de la sueur, de la pluie qui vient de l'intérieur, quelque chose d'humide et de sincère a voilé son regard, déjà noyé de solitude et de nuit bizarre. Il s'est tourné vers le type qui dépliait des barquettes oranges avec une précision de chirurgien-dentiste. « Je peux vous dire que je ne me suis pas mouillé pour rien ce soir, à ça non. » Dans mon dos, le réfrigérateur ronronnait. Un léger sourire s'est installé, naturellement, entre mes fossettes. Sur le comptoir, mes frites étaient prêtes, bien empaquetées. J'ai sorti une pièce de 2 euros et l'homme, tout mouillé, m'a dit « J'aimerais vous offrir des frites, si ça ne vous dérange pas. » J'ai soupiré et laissé ma pièce entre lui et moi. Puis j'ai tendu la main, il l'a serrée. « Merci, monsieur. » Et je suis sortie, mon baluchon de frites au poignet. Sur le chemin du retour, l'odeur caractéristique d'huile de friture a envahi mes narines, mes cheveux et mes vêtements. Je ne reverrai probablement jamais cet homme. En tout cas, pas comme cela. Depuis hier, je veux écrire sur lui, parce que je me demande qui de nous deux, dans quelques mois, dans quelques années, sera trahi par l'image qu'il s'est construite du monde extérieur. Sera-t-on encore quelques-uns à se serrer la main à cette heure-ci du soir pour une barquette de frites tièdes et un coca sans glace? Je voudrais que la poésie soit aussi naturelle à ceux qui m'entourent que l'émotion qui jaillissait cette nuit-là, devant cette place, avec cette facilité improbable des moments qui n'auraient pas dû être, qui furent tout de même, mal fichus, débordant de grâce et de paroles impossibles. Les herbes sauvages. Dans les herbes sauvages, où nous avons dormi, jusqu'à ce que la brûlure de l'été réduise ma lourde chevelure à la couleur des foins, à la sécheresse des pailles, aux tiges nouées comme des racines, sur la tête des prodiges qui vont bientôt tomber. Dans les forêts millénaires qui protégèrent longtemps les natifs, enroulés dans les branches, pendus aux lèvres des sapins, qu'agitaient en automne des vents moins furieux que les gestes d'une main secouée de désir, s'avançant timidement sous le tissu léger d'une longue chemise. Dans les ravins profonds, où sont tombés 1000 fois des garçons délirants de vitesse et d'amnésie, avec des filles sauvages à qui le soleil offrait au printemps des taches de rousseur entre les yeux et l'arête du nez. Dans les églises abandonnées, dans les prairies ouvertes que l'orage a retournées de ses griffes de grêle et d'électricité, dans la paume trouée d'un dieu auquel nous ne croyons que par intermittence, dans les larmes tièdes d'un enfant qui ne veut pas vivre autrement qu'en vacances, dans les fermes écroulées où nous avons vu mourir une par une les lucioles paysannes, dans le rythme du troupeau qui traverse la vallée et emporte avec lui le chant sacré de la terre qu'on refuse à présent de saluer. Dans les greniers remplis, dans les peurs d'avant l'aube et les tables débordantes d'assiettes vides et de verres marqués au rebord par des bouches qui auraient tant voulu s'amarrer au quai d'un nouveau corps. Dans les vêtements trempés sur une chaise devant la cheminée, où les flammes tordues font des guirlandes de lumière dans tes pupilles mouillées, dans les rivières étroites où nous avons suivi le torrent, les pieds couverts de boue et les doigts de piqûres d'araignées. Dans l'eau glaciale qui apaisait le cœur des femmes déçues de tout cet amour qu'elles auraient voulu faire, qu'elles ont souvent donné et qui ne fut jamais rendu. Dans les draps propres et les couvertures piquées de plumes d'oie, d'odeurs de ventre et de jambes écartées, dans les chambres d'enfance, derrière les volets entr'ouverts, là où les ombres se déplacent et jouent la même mélodie, toujours sur un piano imaginaire, dans les nuits qui tombent plus vite qu'une gifle, dans les aubes qui se lèvent en couleurs, plus flamboyantes que les plumes d'un oiseau merveilleux, dans les palais du bout du monde, dans les caresses qui chuchotent, dans les souffles qui grondent. Ma fièvre, mon amour, garde-moi encore un peu. Vivre dans les hautes lumières. C'était dans une autre vie, celle qui précédait les lourdes décisions, juste après les diplômes obtenus sans forcer et les premiers romans écrits sans succès. Un de ces moments qui occuperait sans doute plusieurs chapitres dans un livre, si seulement quelqu'un avait la patience et l'envie de l'écrire. Tu venais d'arriver dans mon désir à la manière d'un voyageur qui se trompe de quai. Quelque chose de plus grand que nous-mêmes que tu nommais « le hasard malin comme un singe et beau comme un homme » nous rapprochait silencieusement. Sa main te poussait vers moi. Je n'y comprenais rien, mais j'avais, à cette époque, des échardes dans le cœur. Ta bouche, longue, pincée, n'hésitait pas, telle une épingle, à les retirer une à une d'un coup sec et violent. Tu parlais plusieurs langues. La plus belle, naturellement, était la tienne. La plus chaude aussi, et de toutes, la plus vivante. Ce fut tellement simple, tellement facile de quitter la France. Là où tu avais posé tes mains sur d'autres corps que le mien, le soleil effleurait chaque matin la surface de l'eau. Tout n'était qu'apaisement. J'arrivais avec des étoiles boursouflées de petites trahisons, et soudain l'existence devenait un luxe que tu m'offrais comme on laisse une vieille chemise à quelqu'un qui grelotte. Mes entrailles ont immédiatement cessé de claquer des dents. Il n'y avait pas une seule bonne raison de retourner à la réalité. La danse des oiseaux, au-dessus des cerceaux d'amarrage que photographiaient à l'aube des sportifs qui s'entraînaient à défier les poissons, couverts d'eau douce, à moitié nus sur la plage, l'absence de contraintes quotidiennes, le sourire des contrôleurs sur le quai de la gare, enfoncé dans la montagne comme un pépin dans un fruit jeune et lisse, le sursaut du wagon quand nous descendions à l'hôtel des rois, des putes et des vendeurs de pantoufles, sur la promenade traversée par des chiens longilignes au poil ras, à la gueule muette, le mouvement lent des bateaux qu'on caressait du dos de la main en longeant le port où, chaque année, des artistes installaient des statues gigantesques, des chevaux de marbre et des enfants sans yeux découpés dans l'acier. La France attendait, couchée derrière. Je ne revenais que rarement la nourrir de cadeaux et d'événements. J'avais trouvé ma place, plus douce qu'une tanière, plus grande qu'un palace. Je t'aimais, tu m'aimais, et chaque jour une voix me répétait devant ce paysage que tu m'avais offert. Ça y est, maintenant tu sais ce que cela signifie. Vivre dans les hautes lumières. Le corps nous a rattrapés. C'est arrivé. Même au paradis, il y a des toiles d'araignée. J'avais entre les doigts un monde restreint, rond comme une pelote, parfaitement équilibré. Un éclat sur ta couronne, ma reine, m'a tiré vers l'avant. J'ai baissé les yeux. Sous les hautes lumières, des étages d'ombre et de murmures puissants t'attiraient. Tu es tombé à la renverse, il n'était plus question de vivre mais de survivre. Les médecins ne pouvaient rien promettre. Désormais, jour après jour, un autre hasard avançait dans ton corps. Les jardins s'éloignaient et le soleil, mauvais amant, effleurait un autre port. Tu as posé ta couronne, séché mes sanglots. Ce fut la fin des hauteurs grandioses, du luxe désuet. Vide et simplement parfait, des silences auxquels on s'abandonne sans résistance, des toutes petites joies, de l'amour qu'on fait, qu'on étire, sans savoir que ce sera la dernière fois. Nous pensons que nos souvenirs sont pleins des lieux que nous avons connus. Pourtant, ce sont les lieux qui abritent ces souvenirs, ce sont eux les véritables boîtes à trésors. Quand parfois je reviens dans la splendeur, pour des raisons qui ne te concernent pas, je revois l'escalier de pierre, depuis la promenade qui monte jusque chez toi. Je ne t'aime plus, ou si peu. Tu ne m'aimes plus, ou si peu, que c'en est presque insupportable de flammes vacillantes et de portes mal fermées. Ce qu'il a fallu de violence pour admettre que cette existence serait bien vite froissée, comme les draps du matin quand le corps tiède peine à se réveiller. Qu'elle ne commencerait sans doute jamais, ni avec toi, ni avec une autre, qu'il est temps de passer à la prochaine vie, à la suivante, en se demandant, avant de quitter, une bonne fois pour toutes, ce moment de grâce qu'on nourrit si longtemps ces paysages atrocement superbes. Cette nouvelle existence, celle qui arrivait, à laquelle je n'étais évidemment pas préparée, dont je ne connaissais rien sinon l'odeur du pain qui montait depuis l'arrière-salle où travaille le boulanger, et le prix du loyer, cette existence-là, avec toutes les promesses qu'elle ne tiendrait pas, était-elle la dernière? Au moins, j'avais appris ce que cela signifie, vivre dans les hautes lumières. Tout va bien. La première fois que quelqu'un a posé ses mains sur moi d'une manière tout à fait différente de celle dont, jusqu'à ce jour, j'avais l'habitude, une manière tout à fait différente et à la fois chargée d'images, de promesses et de responsabilités que je n'étais pas encore en mesure de comprendre, la première fois que quelqu'un a posé ses mains sur moi, ce geste fut accompagné de quelques mots simples. « Tout va bien et tout ira bien. » Après cela, j'ai répété à mon tour ces paroles douces en d'autres occasions. Mais toujours, toujours, la même façon de tendre la voix dans une gorge serrée. Toujours, toujours les yeux clairs qui fouillent d'autres yeux clairs pour qu'ils ne les oublient pas. Tout va bien et tout ira bien. Pour certaines, pour certains, cette phrase apparaît comme un moyen facile et rapide de mettre fin à ce genre de scrupule qui précède généralement un baiser long, profond. Une chemise qu'on retire, un sein qu'on frôle. Mais pourtant je n'ai pas dit cela pour gagner, je n'ai pas dit cela pour vaincre, et je ne dirai jamais cela pour mentir à quelqu'un que j'aime et qui a peur. Mais qu'est-ce qu'aimer, sinon montrer les dégâts causés par sa propre terreur? Qu'est-ce qu'aimer, sinon répéter sincèrement, comme un moine devant la statue d'une vierge aux paupières closes, « Tout va bien et tout ira bien ». Dans les pires moments et les fins d'après-midi chaudes, dans les aubes que des chagrins voraces ont salies, aux rives de lacs gelés comme au bas d'immeubles gris, mille fois j'ai pensé à cette première fois, à la façon dont les mains, les yeux, la bouche se joignent en un cortège bancal. Et lorsqu'il m'arrive de croire que tout espoir fut porté en vain, je repense à ces mots, à la vie qui recommence dans chacune de leurs syllabes. Tout va bien et tout ira bien. Thank you. la surface. Poème pour ceux qui ont mal. Dans ces moments où tu cesses de tourner avec le monde, quand tu ne comprends pas que les autres ne puissent pas comprendre, que tu es blessé, que tu es cassé, qu'il y a dans ta tête la voix insupportable du passé qui répète « Je te l'avais bien dit, je te l'avais bien dit », dans ces moments où tu ne peux pas aller plus loin que la porte de ta chambre, où ta colère est une valise pleine, impossible à fermer, quand tu sautes sur ton cœur pour qu'il cesse d'aboyer, les autres ne comprennent pas, non, ils ne comprennent pas que c'est comme être puni après un long voyage, qu'on t'a renvoyé, qu'on t'a humilié. Les autres ne peuvent pas faire autrement que de te prendre dans leurs bras en murmurant « ça va aller ». L'amour est un naufrage et la voix du passé s'agace. Je te l'avais bien dit, je te l'avais bien dit, tu ne m'as pas écouté. Ne t'inquiète pas. Tu auras longtemps mal, ça peut prendre une semaine, un mois ou une année, jusqu'à ce que le prochain bateau passe. Ne t'inquiète pas, il faudra du temps avant que tu puisses enfin remonter à la surface. Dans ces moments où tu te demandes si tu as mérité cette plaie grande ouverte qui bat comme un tambour, quand tu ne sais plus si tu te détestes ou non d'y avoir cru, personne ne devrait s'en vouloir d'avoir cru en l'amour. C'est un enfant farceur, c'est un mauvais joueur qui est parti avec les meilleures cartes et la voix du passé dans ton corps tout entier, brisé de larmes et de fatigue qui répète « Je te l'avais bien dit, je te l'avais bien dit, tu ne m'as pas écouté. » Ne t'inquiète pas, il faut que tu apprennes à vivre de nouveau, à retrouver ta place. Ta tristesse est un enclos ouvert. Il faudra du temps, mais un jour tu sauras comment remonter à la surface. Il n'y a pas de justice en amour, il n'y a pas de victime, de coupable. Seulement des corps tendus, des promesses murmurées, des ronds de sueur sur vos deux oreillers. Il n'y a pas de route nationale qui permette de contourner les pires moments. Il n'y a pas de bourreau, de responsable. Il n'y a pas de passion plus respectable que celle d'aimer. Tu voudrais croire que ça ne recommencera pas, que tu as vécu assez, qu'il n'y a pas d'expérience en amour, seulement des tremblements soudains et des sourires navrés et des valises fermées. Ton cœur n'a pas manqué d'audace. Il n'y a pas de chant sacré, seulement le souvenir des bouches qui s'embrassent. Il ne faudra pas les oublier. La vie ne se tait pas. Il faudra l'écouter si tu veux remonter bientôt à la surface. Interlude. Ce visage endormi que tes yeux éclaboussent de ce bleu si profond, où la nuit je ramasse ce qu'il faut de trajet de tes lèvres à ma bouche, pour pouvoir le matin s'arrêter, se suspendre au bord du temps qui passe, comme deux grands oiseaux alourdis par la pluie, font sécher au soleil leurs plumes d'oreiller. Devant la maison. Devant ces prairies que le printemps balaye d'une pluie tiède, en fin d'après-midi, il avance jusqu'au perron, pur de toute rumeur que le chant de la ville refuse d'apporter, maladroit sur ses jambes mordues par la vieillesse. Il ne souffre pas, du moins c'est ce qu'il dit. La porte n'est pas fermée sur lui, qu'il se retourne et chuchote à la terre de ses ancêtres, comme à une femme qu'il désire encore, après 40 années dans le même lit. Toi, ma tendre, ma douce, tu es le plus bel endroit du pays. Une chanson particulière. Dans une grande salle ovale où je parle depuis plus d'une heure de la meilleure façon d'écrire des histoires qui ne m'appartiennent plus et qui, de toute manière, ne m'ont jamais appartenu, dans cette grande salle ovale, des oreilles sages attendent une leçon, un conseil, ou peut-être moins. La lumière du jour a déjà baissé dehors, et j'entends monter doucement cette chanson particulière qui retentit souvent à l'intérieur des gens qui aiment quelqu'un qui ne les aime pas. J'ai pensé, comme tant d'autres avant moi, que quelque chose d'extraordinaire arriverait bientôt, parce que ça ne pouvait pas être autrement. Je ne pouvais pas trembler comme ça sans pousser mes secousses jusqu'à toi. J'avais beau me répéter que ça n'arriverait pas. J'étais persuadée, stupide, mais tout de même absolument sûre de te voir arriver. Il faudrait plus souvent dire aux êtres tristes que ce qui ne doit pas arriver, généralement, n'arrive pas. Je t'avais préparé un monde différent, passionnant. Un monde que l'on coud à l'intérieur de sa veste pour le garder contre son cœur. Un monde qui ne ressemble pas à ce que tu attends. Je t'avais préparé des secrets, des voyages et des films que tu n'avais pas pris le temps de voir, parce que tu veux gagner plus d'argent, tu veux une place importante. Je t'avais préparé un monde étrange et suffocant. Nous aurions fait l'amour souvent, dans des chambres de voyageurs. Ça me passera, tu sais. Ça me passera. Ça ne prendra pas longtemps, peut-être 10 ans. 10 ans, c'est rien du tout pour quelqu'un qui n'a pas d'horaire, qui manque ses rendez-vous. Ça me passera, et je construirai une vie ailleurs. Je préparerai un monde joli, tranquille. Ce monde ne sera pas meilleur que celui qui t'était destiné. Juste un peu moins chaud, juste un peu moins vaste. Quelqu'un prendra ta place, dans des draps que je n'oublierai jamais de changer. J'apprendrai à te noyer dans des verres d'alcool doux, à t'étouffer dans des serviettes de plage, accrochées sur le balcon. J'apprendrai à t'oublier, pourtant. Pourtant, écoute-moi bien. Dans chaque voyage, en train pour aller parler, au creux d'une salle ovale, dans chaque chambre d'hôtel à 100 mètres de la gare, dans chaque pomme de terre épluchée sur la nappe d'une cuisine propre, dans chaque réveil, dans chaque goutte de sueur au milieu de la nuit, écoute-moi bien. Dans chaque point final, dans chaque discussion qui commence trop tard, dans chaque aveu arraché par des femmes moins élégantes, dans chaque début d'hiver, pourtant, ce sera ton visage, ta voix, tes mots cassés, tes absences, tes idioties spontanées. Dans chaque page, dans chaque coup de téléphone avorté, dans chaque chanson, dans chaque centime gagné, dans chaque nouveau livre, ce sera pour toi. Je t'avais préparé un monde hors du monde. Nous nous serions amusés. Tu n'aurais pas pleuré pour des histoires sans importance. Dans chaque dernière chance, dans chaque événement public, dans chaque nouvelle robe, ce sera tes mains, ta douceur et tes doigts. Dans chaque passage télévisé, dans chaque couche de mascara, ce sera pour toi. Je saurai faire ce qu'il faudra pour ne pas t'oublier. Dans la seconde partie de l'émission, nous vous proposons quelques poèmes sur le thème de l'exil. Certes, l'exil est différent de l'émigration non choisie. Il suppose une décision prise par des pouvoirs humains identifiés, alors que l'émigration forcée est provoquée par des phénomènes collectifs, la faim, la guerre, les catastrophes climatiques. Mais outre le fait que certaines de ces causes relèvent de pratiques humaines elles aussi, bien que plus anonymes comme la guerre ou la faim, la souffrance causée par l'obligation de fait obligé de quitter son pays, sa terre et souvent ses proches ou ses amis cause la même souffrance. Voici donc quelques poèmes écrits par ces déracinés forcés, comme il y en a tant dans notre monde aujourd'hui.
Les exilés sont-ils des migrants ? Voici l'opinion d'un de ces exilés. J'ai toujours trouvé faux le nom qu'on nous donnait, émigrants. Le mot veut dire expatrié. Mais nous ne sommes pas partis de notre gré pour librement choisir une autre terre. Nous n'avons pas quitté notre pays pour vivre ailleurs, toujours s'il se pouvait. Au contraire, nous avons fui. Nous sommes expulsés, nous sommes des proscrits. Et le pays qui nous reçut ne sera pas un foyer, mais l'exil. Ainsi nous sommes là, inquiets, au plus près des frontières, attendant le jour du retour, guettant le moindre changement de l'autre côté, pressant de questions chaque nouveau venu, sans rien oublier, rien céder, sans rien pardonner de ce qu'on a fait, sans rien pardonner. Ah, le silence du Sund ne nous abuse pas. Les cris qui montent de leur camp, nous les entendons jusqu'ici. Nous-mêmes, ressemblons à des rumeurs de crimes qui auraient réussi à franchir les frontières. Chacun de nous marchant, souliers déchirés, dans la foule, dénonce la honte qui souille aujourd'hui notre terre. Mais nul d'entre nous ne restera ici, le dernier mot n'est pas encore dit. Exil ou émigration, la souffrance est la même. Mon Dieu, mes jours ont fui comme fumée, mes os séchés comme broussailles, mon cœur tari. Herbe fauchée, la douleur m'aveuglant, j'ai perdu mon chemin. J'ai rongé du pain dur en pays étranger, nul repos sur la route. Le jour, je percevais de longs cris d'agonie, et la nuit, je pleurais jusqu'au lever du jour. Tel un hibou, j'ai rôdé dans les ruines. Passereau solitaire, sous le toit, je demeure. La souffrance a mangé mes forces. À quand la délivrance ? Ils ne savent pas qu'ils ne vont plus revoir les vergers d'exil et les plages familières, les étoiles qui voyagent avec des jambes de sel quand la nuit est triste de plusieurs beautés. Ils oublient qu'ils ne vont plus entendre le vent de la grille et le chien des images, l'eau qui dort sur les couleurs des pierres, la nuit avec des violons de pluie. Tant de magie pour rien, si ce n'était ce souvenir d'un autre monde, avec des oiseaux de chair dans la prairie, avec des montagnes comme des granges. Ô mon enfance, ô ma folie. Je suis seul, si seul parfois, et même si pauvre et si triste, si oublié. Voilà comment j'aimerais demander l'aumône sur mes plages natales au long de mes campagnes. Donner à celui qui revient un petit bout de lumière tranquille, un ciel paisible, s'il vous plaît, la charité. Vous ne savez plus qui je suis, et je vous demande si peu, donnez-moi quelque chose. Et la souffrance touche aussi les proches restés au pays. Père, mère, 1 million vous accompagnent, frères de labeur, compagnons de bataille. 1 million d'hommes sans maison, 1 million d'hommes sans patrie. Père, mère, 1 million vous accompagnent en terre étrangère, entourés de murs, de mers et de montagnes, fermés de portes d'acier et de chaînes. 1 million sans terre à semer, 1 million sans terre où mourir. Père, mère, 1 million vous accompagnent en espoir anéanti par les bourreaux des collines et des villes, par les bottes de cuir et de graisse, par les juges de chaux et de torture. 1 million, je les compte d'ici, 1 million et moi sans racine. S'il existe ailleurs un autre monde, ancêtre qui m'écoutait invisible, prenez en compte ma peine profonde. Mes fils partis à la dérive connaissent 1000 misères quotidiennes. Leurs cris angoissés de par les mers me parviennent, m'arrachent le cœur, m'étourdissent. Protégez-les désormais, guide leurs pas, dites-leur que je les attends avec tous les souvenirs autour de ce Nvoufou d'Ignam auquel je vous supplie de goûter les premiers. Dites-leur qu'aucun voyage n'est infructueux, que leur mère les espère, l'eau lustrale à la main, pour combler l'absence. La solitude est la souffrance certainement la plus importante. Il s'en allait errant sur la terre. Que Dieu guide le pauvre exilé. J'ai passé à travers les peuples et ils m'ont regardé, et je les ai regardés, et nous ne nous sommes pas reconnus. L'exilé partout est seul. Lorsque je voyais, au déclin du jour, s'élever du creux d'un vallon la fumée de quelques chaumières, je me disais « Heureux celui qui retrouve le soir le foyer domestique et s'y assied au milieu des siens. L'exilé partout est seul. » Les chants sont doux, mais les tristesses et les joies qu'il réveille ne sont ni mes tristesses ni mes joies. L'exilé partout est seul. On m'a demandé « Pourquoi pleurez-vous ?» Et quand je l'ai dit, nul n'a pleuré, parce qu'on ne comprenait pas. L'exilé partout est seul. J'ai vu des vieillards entourés d'enfants, comme l'olivier de ses rejetons, mais aucun de ces vieillards ne m'appelait son frère. L'exilé partout est seul. J'ai vu des jeunes filles sourire d'un sourire aussi pur que la brise du matin, à celui que leur amour s'était choisi, mais pas une ne m'a souri. L'exilé partout est seul. J'ai vu des hommes jeunes, poitrine contre poitrine, s'étreindre comme s'ils avaient voulu de deux vies ne faire qu'une vie. Mais pas un ne m'a serré la main, l'exilé partout est seul. Il n'y a d'amis, d'épouses, de pères et de frères que dans la patrie, l'exilé partout est seul. En France comme ailleurs. Je cherche au loin la France, avec des mains avides. Je cherche dans le vide à de grandes distances. Je tâte de l'espace, l'ombre désespérée. Je reconnais la place à d'anciennes rosées. Tant de fois c'est ici que je l'ai retrouvée, et sa douceur gavée à même l'infini. Caressant nos montagnes, me mouillant aux rivières, mes mains allaient, venaient, fleurant la France entière. Faites que je retrouve et qu'on me les redonne, ces Français tous en groupe, le ciel qui les couronne. Qu'est-elle devenue, qu'elle ne répond plus à mes gestes perdus dans le fond de la nuit. Son grand miroir poli, en forme d'hexagone, où passaient les profils de si grandes personnes. Ah, comment se fait-il qu'il ait cédé la place à l'immobile face d'un ennemi. Les relations avec les populations sont compliquées par manque de compréhension. Ombre au relevé, il pleut. J'ai 16 ans quand il pleut. La ville a peur des étrangers, elle aime bien ses habitudes. Je marche, je traîne, j'ai ta lettre à relire, j'ai ma lettre à chanter. Je suis un continent qui rêve à la dérive. Ils sont venus dans ma maison à Constantine, ils sont venus la nuit. C'est toujours dans la nuit qu'ils dérangent les rêves. Ma mère a peur et ma maison ferme les yeux. Je suis le voyageur aux étapes baroques, du jardin qui sourit, au grenier qui médite. Je me monte en ménage un peu tous les 2 mois. Il pleut, la ville a peur des étrangers. Elle aime bien ses habitudes. Ne me demandez pas l'impossible. Ne me demandez pas de chasser les étoiles, de marcher vers le soleil. Ne me demandez pas de vider la mer, d'arracher la lumière du jour, je ne suis qu'un homme. Ne me demandez pas d'abandonner mes yeux, ni mon amour, ni les souvenirs de mon enfance. J'ai grandi sous un olivier, j'ai mangé les figues de mon jardin, bu le vin de nos vignes escarpées, goûté le fruit du cactus dans la vallée et bien d'autres choses encore. Le rossignol a chanté dans mes oreilles, et les vents libres de nos champs et de nos villes sont toujours venus jusqu'à moi. Mon ami, vous ne pouvez pas me demander d'abandonner mon propre pays. Certains d'entre eux réussissent quand même à s'intégrer. Mon ami, loin de son pays, avec sa femme. C'est dans les fermes qu'elle va pour les journées. Chacun la croit couturière, mais elle a traversé l'Amérique quand l'Allemagne l'avait chassée. On sait là-bas son nom, le vrai. On la connaît. 10 000 têtes criaient vers eux au meeting de Minnesota. Mon ami, seul dans la montagne, vit avec elle. Il fait son bois et son tabac et des travaux de paysan. Tous les fermiers des hautes terres l'ont adopté pour l'un des leurs. Il est savant pour les brebis et les canards et pour les fièvres. Il est savant. Il a des mains comme leurs mains. Il a bêché, semé, sarclé, taillé les arbres, construit son lit, refait son toit. Est-ce bien lui qui labourait un autre sol, la Caroline, qui écrivait pour l'avenir un chant sacré? Lui qui semait dans chaque tête un blé vivace, lui qui faisait gronder la foule avec l'espoir. Ici, traqués, ils ont repris de longue haleine le beau travail, avec les mots qui germeront. Ils sont tous deux des inconnus qui recommencent, partout, toujours, ils pétriront le nouveau pain. Mais parfois, ils sont mal compris, même de leurs compagnons exilés. Les exilés. Ils viennent de tous les angles de l'exil avec pour seul bagage le rien. Ils sont le rien absolu rêvant, promise par quel hasard sa plénitude. Entassés dans les soutes des trains, des bateaux de fortune, des avions à tarifs réduits, ils sondent le monde de leur passage perpétuel. Ils tournent 1000 fois autour du même point. Un café récemment découvert s'habitue à leur présence jusqu'au moment où les veines même des banquettes se fatiguent d'eux. Un garçon de café les balaie sans raison, ou bien c'est un gardien qui les chasse au matin. Parfois, on voit l'un d'eux au milieu des anges, musicien d'un orchestre ou chanteur ambulant, poète à l'ouvrage, auteur des encyclopédies, et il atterre à lui, cadavre des fourmis affamées, haine de ses concitoyens d'exil, traître, disent-ils, et en effet, il en est un. Ne devrait-il pas séjourner dans l'isoloir du silence à jamais? Dans l'isoloir de l'échec le plus amer, à jamais, dans sa lancinance à l'instant renouvelé, à jamais. D'autres finissent par accepter un statut de nomade perpétuel. Haïtien errant, je déchire les larmes aux yeux, ma carte d'éternel résident temporaire. De nouveau, d'ouest en est, à petits pas de chien fidèle, ma vie essaie de rattraper ses racines de poète assiégé. voyageur au bagage rempli de tendresse et de dérision, je vais manger la fleur bleue, le lotus qui change le pays natal en une simple consigne d'aéroport. Dans mon Ithac des tropiques, Pénélope n'attend plus mes globules rouges. Chaque soir, elle refait avec son corps le joyeux travail du soir précédent. Moucher beaucoup, c'est quand même l'espoir du retour qui reste fort. Nous reviendrons un jour dans nos demeures et nous jouirons de nos espérances les plus douces. Nous reviendrons, quelle que soit l'échéance et les distances lointaines qui nous séparent. Alors patience, ô cœur, ne te laisse pas gagner sur la voie du retour par la lassitude. Quel tourment si demain des volées d'oiseaux s'en retournaient et que nous restions ici. Nous reviendrons, le rossignol m'a confié, quand au détour du chemin je l'ai rencontré, que tous les rossignols continuent là-bas à se nourrir de nos poèmes, qu'ils restent dans les collines de la nostalgie et parmi ces gens une place pour nous. Ô cœur, comme les vents nous ont dispersés, viens, partons, c'est le temps du retour. Et quand le retour peut se produire, quelle joie! Ça y est, je reviens sain et sauf de l'exil. Le verbe et la joie ont en moi la même source. La grande blessure est enfin cicatrisée. Le chagrin a trouvé son hymne à la santé. L'île tragique au loin est vécue sans remords, tout en haut de mon herbe à magie. J'avance jusqu'aux confins du monde, éclairé du signe bleu de la Vierge. J'avance, ailé d'un espoir tout rond dans l'azur. La foi qui m'a créé, nomade enracinée, brille en moi de son grand feu de tendresse. La mer qui m'a séparé de ma terre m'unit aux moissons et aux chimères de la planète. À la limite des ferries du siècle, je vis la plage, l'oiseau, l'arbre de Nelly, l'étoile, la fleur, la papaye, la rivière, l'éléphant et la fourmi. Le merveilleux féminin sert de phare aux dieux en danger de naufrage dans mes maux. Voici terminé notre nouveau voyage en poésie. Mille merci encore une fois à Maud qui a assuré le montage et la mise en musique au studio de Radio Méga à Romans. Et mille merci à Réanne qui a pris de son temps pour nous épauler pour un retour au studio efficace après une longue absence. Vous pouvez réécouter ou faire écouter le dimanche à 11h et vous pouvez podcaster sur le site de Radio Saint-Ferréol. Voici, au début de cette nouvelle année, un message d'espoir du poète turc Nazım Hikmet, qui a connu la prison et l'exil pour ses opinions en faveur des opprimés de son pays. Avec les vœux des poètes et poétesses de toutes les époques et de tous les pays. La plus belle des mères est celle où l'on n'est pas encore allé. Le plus beau des enfants n'a pas encore grandi. Les plus beaux jours, les plus beaux de nos jours, on ne les a pas encore vécus. Et ce que moi, je voulais vous dire de plus beau, je ne vous l'ai pas encore dit. Si vous avez le temps, vous pouvez écouter ce poème chanté par Yves Montand. Vous pouvez le retrouver sur YouTube.